quand même que je le mette en marche. Bon, de toute façon, je couperai. Allez. C'est bon.
Ben, nous sommes réunis pour Radio Libertaire dans une cabane perdue du Vaucluse pour préparer la manifestation qui va avoir lieu le 27 avril contre un projet démesuré, un projet dément comme celui de Notre-Dame-des-Landes, qui se passera. Ce projet intéresse la zone sud d'Avignon, puisqu'il s'agit de construire une autoroute sur des terres agricoles, un peu comme à Notre-Dame-des-Landes, on veut construire un aéroport sur des terres agricoles. Alors si on est réunis aujourd'hui, c'est parce qu'on a invité évidemment ceux qui se battent pour que cette zone à défendre soit vraiment défendue et qu'on va les laisser s'exprimer sur leur projet. Je voulais simplement souligner que cette émission particulière, spéciale, elle se trouve justifiée également par le fait que le journal de révérence, le journal Le Monde, a consacré une page entière à Notre-Dame-des-Landes pour détailler les conclusions de trois commissions qui ont été mises en place par le gouvernement et qui espéraient sûrement que les conclusions seraient un peu plus positives. En tout cas, ces trois commissions, tout en reconnaissant que finalement ce projet n'est pas complètement stupide, développent dans ses arguments, dans ses argumentations, développent des idées qui montrent à quel point le gouvernement est complètement dans le cirage et que les projets sont complètement stupides. Il y a notamment trois points. Le premier point, c'est que il faudrait réduire d'une centaine d'hectares l'implantation de l'aéroport. D'autre part, il faudrait aussi, en ce qui concerne les expropriations, réduire d'une centaine d'hectares tout ce qui concerne la zone verte. D'autre part, les projets ne sont pas capables d'avoir compensé en quelque sorte la zone de marais, la zone verte et la zone agricole par une autre façon, un autre lieu. Et puis enfin, ce qui est encore plus significatif de l'incompétence totale de M. Hérault et de M. Hollande, c'est que une des commissions déclare « On a prétendu que 9 millions de passagers allaient, dans quelques années, arriver à Nantes. » Eh bien, cette prévision est du flanc. Cette prévision est complètement déconnectée des réalités. C'est plus, en quelque sorte, un souhait pieux, un souhait de religieux. Alors voilà, nous espérons que cette bagarre pour Notre-Dame-des-Landes continuera et que tous ceux qui interviendront tout à l'heure en vous parlant de cette ZAD à défendre à Avignon feront école, parce que dans toute la France, et pas seulement la France, mais dans toute la France, il y a certainement des projets de ce genre. Et ce qui est à retenir aussi, puisque vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, c'est que il y a un personnage bien connu qui est le père de l'anarchie qui disait que l'atelier remplacera le gouvernement. Et je crois qu'en effet, quand on voit la situation actuelle d'un gouvernement complètement paumé, avec des affaires financières, avec le fait qu'il n'arrive plus à soutenir ses amis, ses multinationales de la finance, qu'il essaye de moraliser le capitalisme, eh bien, je crois qu'en effet, cette formule « l'atelier remplacera le gouvernement », ça signifie aujourd'hui que c'est bien sur le plan local, c'est bien sur le plan particulier local que les choses peuvent évoluer, et ça n'est certainement pas en allant choisir quelques oseaux sénateurs ou députés qui prétendra arranger les choses. Alors je laisse la parole à nos amis de la ZAD d'Avignon.
Bonjour.
Bonjour.
Bah, peut-être vous pouvez parler un petit peu de ce que représente la ZAD à Avignon? Pourquoi elle s'est créée? Qu'est-ce qui va se passer à Avignon? Alors, qui fait qu'il y a une réaction?
Il y a un projet d'autoroute pour relier l'autoroute A7 et l'autoroute A9 qui passe de part et d'autre d'Avignon. Donc ce projet est au sud d'Avignon. Il concerne 50 hectares de terres agricoles qui sont très fertiles parce qu'il s'agit des alluvions de la Durance. C'est un projet qui coûte très cher, qui coûterait très cher, 180 millions d'euros pour 7 km d'autoroute. Et qui est plutôt inutile. Là, on peut développer ça après. C'est pour la présentation rapide.
C'est aussi pour aller plus vite. Ce projet-là d'autoroute, c'est une construction d'une bretelle pour éviter de contourner Avignon actuellement et de faire une liaison peut-être entre le sud d'Avignon et puis Nîmes, c'est ça? En gros, ça, c'est pour éviter de perdre du temps, de monter comme ça.
Ça, c'est ce qui est annoncé, mais voilà. Dans la pratique, même si on se base sur ces arguments-là, le tracé n'est pas pertinent non plus pour vraiment gagner du temps. Mais nous, notre lutte, c'est pas vraiment sur ces arguments-là qu'on a envie de jouer. C'est quoi qu'il arrive, continuer à construire des 2x2 voies maintenant, alors que à la fin du pétrole, que c'est une société de la vitesse qu'on crée, c'est pas ce qui nous parle du tout, quoi. C'est des terres agricoles. L'important pour nous, c'est les terres agricoles, c'est la vie, c'est de manger.
Oui, parce que tous les prétextes sont bons pour essayer d'aller plus vite et de construire des routes pour soi-disant le confort des automobilistes. Mais finalement, on se retrouve dans une société où la rapidité est l'essence même de la vie, quoi. Il faut aller vite et on va tellement vite que la vie passe et en fait, on ne la vit plus, quoi.
Sinon, un autre des arguments pour faire cette 2x2 voies par le sud d'Avignon, c'est que comme ça, la circulation des voitures et des camions qui passent maintenant par la rocade, voilà, elle va partir vers cette autre autoroute. Et comme ça, c'est un argument qu'on donne aux voisins, voisines qui vivent proche de la rocade, pour les convaincre que c'est bien de construire cette autoroute-là. Le problème, c'est que ça, c'est pas du tout vrai, parce que à la fin, cette rocade-là, elle va être payante. Il y a une quatrième tranche, parce que cette liaison, elle est divisée en quatre tranches. Il y a la première qui est déjà faite, qui sort de l'A9 qui passe les ronds. Ils sortent du Gard et rentrent dans les bouches de ronds par le sud d'Avignon. Il y a la deuxième tranche, qui c'est pour celle qui va détruire toute cette terre agricole, 104 hectares du sud d'Avignon. Et après, il y a une troisième tranche, quatrième tranche, déjà pour lier d'Avignon jusqu'à l'A7, que c'est l'objectif de cette Léo. Et en fait, à la fin, ça va être payant. Du coup, en fait, on crée une autoroute pour fluidifier surtout la circulation des camions et pour les riches qui puissent se payer cette péage. Et en fait, c'est la même conception toujours de, voilà, on a besoin d'une autoroute pour que la nourriture, surtout agricole, elle se fluidifie pour que les légumes qui viennent du sud de l'Europe arrivent plus vite au nord de l'Europe. Pour les légumes qu'on fait en Sasse et en France, dans ce coin de la Vaucluse, elles partent plus vite vers un autre endroit. Et voilà, c'est ça que vous avez parlé avant, c'est la conception de la vitesse et des longues distances des légumes et de la nourriture. Mais en plus aussi, cette rocade-là, cette nouvelle rocade qui va être plus au sud d'Avignon, et en fait, c'est une excuse aussi pour lier les différents pôles d'activité économique qui existent à Avignon, que c'est les TGV avec l'aéroport. Et en fait, c'est aussi une excuse pour que d'ici 10, 15, 20 ans, toutes ces ceintures vertes, qui comprennent beaucoup plus que 50 hectares, c'est environ 300 hectares, et en fait, presque les derniers poumons agricoles et verts de la ville d'Avignon, et elle soit construite, c'est la revalorisation de ces terrains-là pour faire des immeubles et tout ça, avec l'objectif de tous ces voisins qui habitent maintenant à la rocade, on les envoie à nouveau dans une autre rocade, habiter là-bas, à chaque fois plus loin de la ville, et comme ça, les centres-villes d'Avignon, Intramuros, ça reste cette ville musée jolie, propre, où les pauvres et les personnes indésirées, on les envoie de plus en plus loin. Du coup, aujourd'hui, c'est 50 hectares qui vont être détruits. C'est divisé la santé urbaine en deux. C'est expulsé quand même une quinzaine, une vingtaine de familles qui habitent aujourd'hui là et qu'on va les expulser. C'est encore faire qu'une quinzaine, une vingtaine de familles en plus habitent à 10 mètres d'une autoroute. Mais au futur, d'ici 10, 15, 20 ans, en fait, ce centre ouvert n'existera plus. Ça sera un autre centre d'activité commerciale et ça sera plein de centres désirables et de peuples qu'on envoie encore de plus en plus loin de la ville.
Parce que la rocade qui existe à présent, celle qui dit qu'elle est surchargée, en fait, elle est bordée de cités HLM. Et donc, un des arguments des bétonneurs, c'est de dire qu'ils veulent construire la nouvelle liaison Est-Ouest pour décharger cette rocade pour les gens qui vivent dans les HLM. Mais on sait très bien comment ça se passe à chaque fois, c'est que dès que la liaison Est-Ouest, la nouvelle, sera construite, ils vont construire des zones industrielles, des zones commerciales et des HLM en bordure de cette nouvelle autoroute, déplacer toutes les populations de l'ancienne rocade au bord de cette nouvelle rocade et raser les anciens HLM pour faire des quartiers pour les riches, des quartiers de bureaux, des éco-quartiers avec des guillemets éco, et voilà.
Et en fait, en plus, est-ce qu'on les voit, parce qu'en fait, juste à côté de, de la rocade qui existe maintenant, on est en train de réfléchir déjà à un éco-quartier. Du coup, c'est déjà prévu. On réfléchit déjà que d'ailleurs, il va détruire aussi quelques petites parcelles agricoles qui restent par ces quartiers là-bas. Du coup, voilà, c'est en fait, quand on parle de ces projets-là, il faut jamais réfléchir au présent, qu'est-ce qui va passer tout de suite, sinon qu'est-ce qu'ils réfléchissent ces décideurs et béteneurs dans les 10, 15, 20 ans qui vont venir. Et c'est ça qui vient de dire à les collègues, c'est on envoie les indésirables plus loin. On fait des écoquartiers pour une classe moyenne haute. Et en fait, une autre des choses qu'il faut dire, c'est que en fait, les HLM et les quartiers qui sont autour de la rocade qui existe aujourd'hui, ça fait 10, 15 ans qu'on les a abandonnés. On fait plus rien.
Oui, pour eux.
Pour eux. On fait plus rien. Ça fait vraiment des années qu'on les a abandonnés.
On les prend comme prétexte maintenant pour défendre ce projet, quoi. Soi-disant, c'est pour leur augmenter leur qualité de vie. Parce que justement, cette rocade actuelle, elle passe au milieu des HLM, comme tu disais. Et donc, vous allez passer pour de fieffés dégueulasses si vous opposez justement à cette rocade. Ça va être très difficile d'expliquer aux gens exactement tous les enjeux.
Mais on essaye, c'est vrai que c'est compliqué.
C'est vrai que ça va être très
mais difficile. Mais je pense que c'est des gens qui aussi se rendent compte que ça fait 10-15 ans qu'on les a abandonnés, qu'il ne faut plus rien pour eux. Ouais. Et bon, c'est vrai que même il y a quelques ans, quand on parle avec eux, on dit « oui, mais moi j'habite à la rocade, ça va nous faire du bien ». Mais quand tu lui dis « bah oui, mais ça fait 10-15 ans qu'il ne faut plus rien », quoi. Et ils se rendent compte que oui, qu'ils sont abandonnés. Et que... Du coup, je pense que c'est des arguments qu'ils vont entendre. Et qui vont voir qu'en fait, en plus, cette rocade-là, quand elle va être finie, tout ça, on est en train de parler que ça va être fini pour 2022.
Il n'y aura plus de pétrole.
Il n'y aura plus de pétrole et tout. Du coup,
Il y a des arrêtés d'expropriation?
Oui, ça a commencé. En fait, il y a une enquête publique. C'était du 14 janvier jusqu'au 14 février environ. Les dates, je ne me souviens pas trop, mais c'est environ ces dates-là. Et du coup, normalement, les expropriations, elles sont commencées. D'ailleurs, il y a déjà, l'État, il a déjà acheté une ferme, comme ça, des terres et quelques maisons. Mais là, toute cette politique de communication et tout ça, ils ont dit, bon, la conclusion de cette enquête publique, c'est bon, on vous a écouté, on voit bien que les habitants ne veulent pas partir, on voit bien que les habitants aiment les terres agricoles, qui a sur la santé ouverte. Du coup, on ouvre à nouveau une enquête publique pour réentendre à nouveau les habitants et tout ça. Du coup, tout ce truc d'endormir les personnes, de dire voilà, on vous écoute et tout ça. Quand par derrière, on sait qu'ils essayent d'acheter aux personnes.
Voilà. En même temps, ça fait aussi un peu vous n'avez pas donné les réponses qu'on attendait, donc on refait l'enquête jusqu'à ce que vous donniez les réponses qu'on attend.
Oui. Et sinon, voilà, si vous voulez maintenant, on peut parler un peu de cette manifestation occupation qui va se dérouler le 27 avril. Et qu'en fait, voilà, c'est une envie de renforcer cette lutte et de la faire entendre, mais aussi parce qu'après cette manifestation occupation du 27 avril, il y a 4 jours de rencontres où il y aura c'est du 28 avril jusqu'au 1er mai, il y aura des chantiers, des ateliers, et on a invité d'autres luttes locales qui sont autour d'Avignon, parce que, comme Jacques l'a dit tout au début, c'est par des centaines de troupes en France, les luttes des zones à défendre, des zones agricoles, des forêts à défendre. Et on sait qu'autour d'Avignon, il y a pas mal de luttes où il y a des terres agricoles, où il y a du paysage qui va être détruit pour faire des projets capitalistes d'aménagement du territoire et d'aménagement de nos vies, quoi. Du coup, je ne sais pas si tu veux présenter un peu.
Ouais, bah, déjà, on donne rendez-vous le samedi 27 avril, du coup, à 10h à la place Pie ou à 11h à Saint-Ruf pour le départ de la manifestation, qui est une manifestation outil en main, puisque l'idée c'est de marcher jusqu'en ceinture verte, du coup, pour ensuite faire une action de plantation de patates en ceinture verte, pour ressemer la ceinture verte. On a fait 2 départs de manif pour que justement qu'il y ait un départ qui parte de la rocade pour que ces gens qui sont déjà au bord de la rocade ils aient pas allé en centre-ville pour redescendre en ceinture verte. Donc ensuite on arrivera en début d'après-midi sur la ceinture verte pour planter ces patates. Le soir il y aura des concerts d'organiser et puis des petites AG aussi pour discuter un peu du campement, de la forme que ça va prendre pendant ces 5 jours. Ensuite, le lendemain, le dimanche, il y aura un marché des producteurs de la ceinture verte, les quelques-uns qui restent encore, pour présenter leurs produits, leurs terres, etc.
Parce qu'actuellement, il y a des producteurs bio sur cette ceinture verte.
Oui, ouais. Il y en a quelques-uns. Il y a des bio et des pas bio.
Mais est-ce qu'ils sont tous décidés à se battre pour rester? Parce que la tentation, quelquefois, compte tenu des sommes que proposent Vinci ou les Bouygues ou ces grosses compagnies, ça peut conduire des gens à dire « Ah bon, bah, on va accepter de s'en aller ».
Ouais, c'est pas tant le cas en l'occurrence, puisque il y a surtout ceux qui ont accepté de vendre assez tôt, qui ont réussi à avoir des sommes pas si mal. Mais les gens qui maintenant se font exproprier, au contraire, c'est pas du tout intéressant, quoi. Et même, on voit plutôt des gens que lors des visites de leur maison pour estimer le prix, sont vraiment déçus parce qu'ils n'arrêtent pas de dénigrer leur bâtiment, leur foncier.
Parce que c'est vrai que l'argumentaire est difficile à essayer de faire une espèce de front commun entre tous ceux qui sont sur place, qui au fond représentent la vie de cette zone verte, et avec ces tentations capitalistes qui viennent essayer de casser le front commun, puis de dire, bah, vous voyez, lui il a vendu, pourquoi pas vous ?
Ouais, je pense que les gens sur cette zone, en l'occurrence, sont vraiment attachés à leur terre, à leur maison, et on voit plutôt vraiment beaucoup de tristesse de partir, et que les gens, au contraire, essayent vraiment d'essayer de rester le plus longtemps possible, et c'est plus du défaitisme et de la tristesse qu'on constate, nous, sur place, plutôt que ça, quoi. Je n'ai pas du tout senti ça, moi, en tout cas,
sur place. Après, moi aussi, je voudrais dire qu'il faut avouer que sur la ceinture verte, une partie des personnes qui font de l'agriculture là, c'est des exploitants agricoles, du coup ils font une agriculture industrielle. Et nous aussi.
Les parcelles ne sont pas si grandes que
on
ça.
On veut se battre pour ça. Bon, il y a des fermes qui vont entre 10 à 15 hectares avec du maraîchage industriel, avec beaucoup de serres chauffées. Du coup, c'est une paysannerie aussi que nous, on ne défend pas du tout. Oui, on ne se bat aussi contre ça. Après, c'est vrai qu'il y a des paysans qui essaient de s'installer là-bas et ils n'arrivent pas. Et même ils s'étaient installés et ils se font expulser à cause de cette autoroute-là. Et en plus, ils essayent de trouver des terres dans la ceinture verte parce qu'ils sont attachés à cette ceinture verte. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'aussi, il faut avouer qu'il y a toutes ces conceptions de l'agro-industrie, de l'agro-business, qui les fout dehors, ces petits paysans qui essaient de faire autrement, qui essaient de faire une agriculture écologique, biologique, qui essaie de faire de la vente en direct et tout ça, bah, ceux-là, c'est aussi des indésirables et on essaie de les mettre dehors de ces ceintures vertes. C'est vrai qu'il y a du défaitisme, c'est vrai qu'il y a de la tristesse. On sait que malheureusement, parce que nous, on voudrait que ces habitants qui se font expulser restent, mais on sait qu'il y a la plupart qui va partir, malheureusement. Et du coup, malheureusement, très bientôt, il y aura plus de terres et plus d'habitations qui vont rester libres. Et du coup, il faudra plus tout le monde qui ait envie de venir et rester. Et nous, on espère que c'est ces habitants-là qui vont rester pour essayer de défendre ces terres-là et les combattre, et combattre cette destruction-là, quoi.
Et la Confédération paysanne, qu'est-ce qu'elle dit? Elle n'est pas au courant.
Enfin, elle est très au courant.
Si, elle est très au courant,
bien sûr. Et la FNSEA, elle doit approuver les expulsions.
Bah, la FNSEA, elle doit les approuver parce que la FNSEA, elle a cette conception capitaliste et la business où voilà une autoroute qui fluidifie la circulation, les transports de ces légumes.
Donc, on ne peut pas compter sur les syndicats agricoles.
La Confédération, oui, on les a contactés. Ils sont en train de relayer beaucoup l'information. Et on sait qu'il y aura quelques-uns qui... Parce qu'en fait, les marchés des producteurs du dimanche, c'est les quelques petits producteurs qui restent de la ceinture verte. Mais aussi, ils vont venir d'autres producteurs autour d'Avignon, dont la plupart, ils font partie de la Confédération paysanne. Et oui, ils vont venir se manifester avec nous. Vraiment, c'est un syndicat avec lequel on peut travailler. Et parfois, si on peut faire une petite critique, c'est vrai qu'ils sont un peu endormis, mais il n'est pas ce qu'ils s'est... Il se réveille, quoi. Et moi, franchement, je ne pense pas qu'il faut cracher sur eux. C'est des personnes qui essaient de s'en sortir, c'est vrai, dans un système capitaliste. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un système capitaliste et que d'une façon ou d'une autre, il faut qu'on survive dans ce système-là.
Bah ouais.
Mais c'est des personnes avec lesquelles on peut travailler. Je pense que... Bon, je ne les connais pas trop ici, mais moi, je les connais mieux d'autres là où j'habitais avant en France. Et moi, franchement, c'est des personnes avec lesquelles j'ai travaillé beaucoup de fois. Et on sait que la Confédération paysanne d'ici, de la Vaucluse, de la région PACA et même de la région Rhône-Alpes, ils sont en train de relayer l'information, ils vont venir à plusieurs.
Et c'est la première manifestation que vous allez faire, là, ou vous en avez déjà fait?
Sur Avignon, vous
voulez
dire?
Sur Avignon, oui. Il s'est passé déjà des événements.
Il y a eu des événements déjà.
Et alors
Alors,
ils ont été pas mal relayés, mais c'est là la nouveauté, je crois, c'est la dimension d'occupation vraiment dans cette manifestation. C'est-à-dire que ce n'est pas une manifestation tout court, c'est une manifestation qui appelle à occuper la zone pour vraiment créer une zone de résistance en ceinture verte contre cette Léo au travers des occupations. Alors que jusqu'à présent, il y a eu des actions qui ont été faites qui étaient plus voilà, des actions ponctuelles, quoi.
Ça va. La technique.
Tu pourras couper ces morceaux.
Peut-être, je ne sais pas.
On peut parler un peu de ces actions-là. Il y a eu une première action, c'était un marché des producteurs sur la ceinture verte,
voilà.
qui a eu beaucoup de monde.
Ça a été assez bien.
Il y a eu lieu le 14 octobre de l'année dernière. Ouais. C'est-à-dire il y a 5-6 mois. Et c'est très bien passé, on avait beaucoup parlé de la Léo, des problématiques qui allaient.
Mais le lieu même de cette.
Sur la ceinture verte. Sur la ceinture verte. Est-ce qu'il ne connaît pas encore assez les noms de là-bas, mais à côté du moulin, le moulin de Notre-Dame, je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment, mais voilà, c'est sur ceinture verte. Et sinon aussi, il y a eu une petite action qui a été début janvier, non, au mi-janvier, que c'était, en fait, il y a la TGV qui passe là-bas, que d'ailleurs, il faut dire que ça avait été, il y a une lutte très importante là-bas, il y a 10 ans.
Oui, lors de la construction.
Ou lors de la construction.
Même les locaux de la SNCF avaient été saccagés, des actions comme ça.
Et quand ils ont construit cette pont TGV, déjà, ils réfléchissaient à la Léo, parce qu'ils ont laissé... Et les ponts rails qu'on dit, que c'est en fait un petit tunnel où elle va passer les quatre voies. Et du coup, on peut dire que c'est le premier lieu visible physique de cette Léo. Et du coup, mi-janvier, il y a eu une action là-bas, que c'était une action symbolique, avec un gros panneau, on a bloqué cette bon rail, cet endroit où on disait voilà, inutile, cher, je me souviens plus, parce que c'est pas nous, on n'était pas trop encore dans son Avignon, mais c'est des habitants de la ceinture verte qui ont organisé ça. Mm-hmm. Parce que bon, il faut dire que sur cette lutte, il y a plusieurs acteurs, comme toujours. Mm-hmm. Il y a les habitants, il y a un collectif qui s'est créé, il y a les nouveaux arrivés. Mm-hmm. Voilà, et tous ces acteurs-là, une partie de ces acteurs, là maintenant, ils se rejoignent dans ce collectif qui s'appelle Léopard, que c'est le collectif qui organise cette manifestation-là et les jours qui suivent le campement.
Et du coup, cette manifestation au pont rail, elle avait, bon, c'était une manifestation symbolique, mais elle avait aussi une valeur à réunir les différentes composantes de la lutte dans une même action pour une première fois. Et l'aspect symbolique de ce pont rail, c'est que lorsqu'ils ont construit la voie TGV, ils ont mis ce pont parce qu'ils avaient déjà en tête de construire la 4 voies, alors que l'enquête publique n'avait pas encore été réalisée. Donc ils avaient déjà décidé à l'avance qu'ils feraient cette autoroute avant même d'avoir consulté les gens et d'avoir vérifié la pertinence. Il n'y avait pas encore la déclaration d'utilité publique pour cette autoroute. Et du coup, les habitants sur place, pour eux, les habitants et habitantes, c'est un symbole du fait que le gouvernement se fout bien de ce qu'ils peuvent penser, quoi.
Et quel qu'il soit, puisqu'on passe d'un gouvernement à un autre, et les projets continuent. Voilà.
Autrement dit, les enquêtes publiques, c'est de la plaisanterie.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est...
Et comme autre manifestation avant ça, il y avait eu aussi des marchés fictifs dans lesquels il y avait des légumes complètement abîmés ou peints en noir ou absents et à des prix exorbitants pour un peu montrer comment ça serait s'il n'y avait plus le maraîchage en ceinture verte, quoi. Voilà. Et apparemment, ça marchait assez bien pour sensibiliser et informer les personnes qui habitent à Avignon, quoi.
Parce qu'en fait, c'était des marchés fictifs qu'on faisait au centre-ville d'Avignon. Parce que si c'est ça, c'est très difficile de faire voir la problématique et qu'est-ce que ça peut représenter la destruction de cette zone-là aux Avignonnais qui habitent intramuros, quoi, ou que leur ville passe surtout là-bas.
Parce que la ceinture verte, elle livre ses légumes essentiellement sur Avignon.
La ceinture verte, la plupart, comme on a dit avant, c'est l'agrobusiness, on ne sait même pas où il livre ses légumes. Après, c'est clair que si cet agrobusiness il va partir parce qu'il ne veut pas rester, comme c'est le cas d'une ferme qui part, ils sont déjà vendus par ailleurs, on va essayer de créer cette paysannerie locale qui a une autre conception de distance et de légumes, quoi, de la nourriture. Et on va essayer aussi de ces paysans qui font cette paysannerie-là, que pour moi c'est la vraie paysannerie, pour moi l'autre c'est des exploitants qui font de l'agrobusiness, ils peuvent rester, et pour l'instant ils ne peuvent pas, quoi, parce qu'on les rejette, quoi.
Et on a lu qu'il y avait beaucoup de comités de soutien à votre action.
Non, à la ZAD de...
Ou à l'action en général des ZAD.
Des ZAD de Nantes, oui. En France, il y a beaucoup de comités de soutien.
Bah, c'est
et
vrai
qui peuvent se transformer s'il a lieu d'être en ZAD. S'il se passe des choses proches de chez eux, ils peuvent aussi défendre justement des projets de bétonnage qui existent.
Ça serait intéressant de savoir où ils sont et quels sont leurs...
À mon avis, il y en a beaucoup, ce serait dur de les répertorier.
C'est déjà le cas, en fait, où il y a des comités de soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui nous ont déjà contactés pour... vu que ici on crée une ZAD locale, entre guillemets, où c'est ça notre projet, quoi, que ça a plus de sens, des fois, de venir nous soutenir
localement,
plutôt que que des gens ils partent en masse à Notre-Dame-des-Landes, ce qui est bien aussi, mais...
Alors, vos moyens de communication, vous en avez à part les... Vous faites des tracts, vous allez sur les marchés, actuellement, là, pour préparer le...
Après, si vous me permettez, je voulais dire un truc par rapport à ça que vous avez demandé, des comités de soutien. En fait, l'objectif non plus, c'est de mettre en compétence les différents sons à défendre. C'est pas parce que nous...
En compétition,
oui, voilà. Pardon. Il faut pas faire de la compétition de qui est plus chouette, de qu'est-ce qu'il faut défendre. Sinon, c'est simplement que... voilà, il y a des sons à défendre partout la France. Et je pense qu'on a beaucoup de force et que localement, on peut faire beaucoup de choses. Mais il ne faut pas oublier que dans des moments ponctuels, va d'un endroit à un autre et peut-être il faudra les soutenir et il faut les faire.
Oui, oui, oui. Et même au-delà de la France, hein, on disait
oui, voilà.
C'est mondial aussi.
Hein. Oui, oui, oui.
Oui, parce que Vinci, on le retrouve pas... de partout.
Oui, Vinci, hein. Sinon d'autres entreprises comme ça peut être... Dragados en Espagne, ou celle qui va construire la boîte à GV en Italie. Et voilà, c'est important de ne pas oublier que nos copains de la Val d'Issus, ils sont à même pas 300 km d'ici, et que ça fait, c'est une lutte qui existe depuis il y a très longtemps. Que nos amis de la Catalogne, ils sont à 400 km d'ici, et là-bas, ils se battent pour aussi contre l'agrandissement des villes, contre toute cette conception capitaliste du transport de nourriture et des personnes, mais aussi contre le THT et aussi contre les gaz de schiste. Là-bas, il y a de plus en plus de personnes qui luttent contre cette nouvelle mine qu'ils essaient de faire pour cette nouvelle énergie pas renouvelable qu'on essaie de nous imposer. Que c'est pas simplement qu'ici en France, que les gaz de schiste dans l'État espagnol, il est partout. Et il y a une bonne nouvelle, et ça je pense que c'est important de le dire, c'est qu'une des régions de l'Espagne, le gouvernement a interdit les gaz de schiste. Et que c'est une belle victoire des collectifs des personnes. L'interdit de faire l'exploitation du gaz de schiste. Et c'est une belle victoire de ces collectifs qui se battent là-bas pour ça.
Et sinon, sauf qu'un gouvernement peut revenir sur une décision.
Tout à fait, mais c'est une très belle victoire, et les belles victoires, il faut les annoncer aussi.
Oui, oui.
Et sinon, par rapport à votre question, nos moyens de communication.
Oui.
Ça passe par de l'affichage, par de la distribution de tracts, par des listes mail sur Internet, et puis ensuite le bouche à oreille réel ou virtuel par email, et puis voilà. Et la radio.
Oui, et la radio.
On a aussi un blog, que c'est léopard, avec t'es à la fin, .noblogs.org, léopard tout ensemble. On a un mail, que c'est léopard tout ensemble, t'es à la fin, @recep.net, où on peut avoir des infos, les contacts, etc. Et sinon, s'il faut dire qu'on a fait un tract, que du coup, voilà, je pense qu'il est partout la France, mais aussi il a été traduit à 4 langues. Du coup, il est en français, en allemand, en italien, en castillan et en anglais. Et que du coup aussi, voilà, on a invité nos copains, copines du Val d'Issus, de la Catalogne, du Pays Basque aussi, qui se battent contre la TGV. On a invité les copains de l'Allemagne qui se battent contre les mines de charbon à ciel ouvert. Et voilà, tous ces projets qui détruisent de plus en plus des terres agricoles, des forêts, qui aménagent nos vies.
Et je vois là, vous avez un livre avec écrit Le Fléau. Alors,
Ça, c'est un journal, le journal du cinéma
Utopia
à Avignon qui
soutient ce mouvement, non?
Qui
a bien voulu publier un article.
Voilà.
Et donc, leur titre, c'était Le 27 avril, Ensemble semons le fléau. Et le fléau, c'est. Pour Fabuleux Laboratoire d'Expérimentation.
Alors, qui c'est qui a décidé ce titre? Le Fabuleux.
C'est le cinéma?
Non, c'était lors d'une soirée arrosée.
Oui. Non, à un moment, on a rigolé sur le fait que contre l'aléo, semons le fléau, ce serait amusant. Ouais.
C'est un jeu des mots.
Comme jeu de mots.
Parce que, bon, je sais pas, tout le monde sait qu'est-ce que c'est les fléaux, non? Les fléaux,
oui, un fléau, justement, dans l'agriculture. On utilise les fléaux pour battre le blé.
En fait, ça, c'était aussi, voilà, comme les collègues, les copains l'ont dit, c'était dans une soirée un peu arrosée, tout ça, où on rigolait tout ça. Mais pour nous, à la fin, on a dit, ah, mais quand même, c'est un mot qui nous parle. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, le ministre de l'Intérieur, M. Valls, il avait dit un jour que les sadistes, les personnes qui habitaient à Notre-Dame-des-Landes,
oui, c'est un kyste,
voilà. Bah, nous, on va être cette fléaux qui essaient de changer la réalité de leur monde. Pourquoi pas, on va essayer
en tout cas. Oui, c'est vrai. Parce que... Le capitalisme est un fléau, hein, le système aussi, est un fléau. C'est
bah, nous, on va être les fléaux qu'on va peut-être détruire ce système-là. En tout cas, on va essayer parce que aussi, pour nous, il faut dire, nous aussi, si on se bat contre l'aléo et son monde, c'est pas simplement ces quatre voies, c'est toute leur conception. Et c'est aussi qu'on veut construire quelque chose derrière. Ouais. On veut faire des choses. Je pense qu'on peut dire qu'il y a, il y a du monde qui habite sur place et qui essaie de faire du maraîchage pour nourrir cette lutte-là, pour faire des légumes de qualité qui soient capables de nourrir les nouveaux habitants, mais aussi les habitants qui resteront et pour nourrir d'autres luttes ailleurs. Parce qu'en plus, voilà, c'est des terres maraîchères qui peuvent donner une nourriture de qualité importante pour se nourrir. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour mieux résister, pour mieux lutter, pour mieux construire nos rêves utopiques, il faut qu'on soit bien nourri. Et ce n'est pas l'agro-business qui va bien nous nourrir.
Oui. Puis dans Fléau, pour moi, il y a cette idée de laboratoire d'expérimentation.
Alors
qui
c'est moins bien.
Qu'on trouvait un peu séduisante dans le sens où ça, faire de cette zone-là, cette ceinture verte, qu'en même temps qu'on occuperait cette zone pour résister à l'aléo, on peut aussi l'occuper pour expérimenter d'autres manières de faire, pour déconstruire certaines choses dans nos modes de vie, et que c'est aussi ce sens-là qu'on voulait y mettre.
C'est les mots laboratoire qui ne vous plaît pas ?
Laboratoire expérimental, voilà les deux.
Alors on pourrait dire formidable lieu d'expérimentation et d'opposition.
On aurait préféré d'autres mots parce que c'était un rappel justement un peu à connotation scientifique, et on sait comment la science est aussi le grand acteur du capitalisme aussi. Donc ça nous gênait, enfin moi ça m'a vraiment pas plu ce mot laboratoire. Et expérimental aussi, parce que pourquoi expérimenter? T'as pas besoin d'expérimenter pour vivre, je veux dire, t'as une vie à vivre, c'est pas une expérimentation, c'est un cadre scientifique, l'expérimentation aussi.
Oui, mais après moi c'est... Bon, peut-être que le laboratoire, c'est vrai, le laboratoire, qu'est-ce que ça signifie, tout ça, ça, je ne vais pas rentrer, mais sur l'expérimentation, par contre, à moi, ça me plaît bien, parce que en fait, voilà, on expérimente nos rêves utopiques, et on les expérimente, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'ils sont les bons. Parce que si on dit, ah, moi, comme je veux vivre, c'est la solution, c'est comme avoir la vérité absolue, et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je défends mes rêves utopiques, mais je veux bien les expérimenter parce que peut-être qu'on se trompe.
Oui, bien
voilà.
Sûr.
Oui, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat. C'est des mots et tout
c'est
ça. En tout cas, c'est un beau jeu de mots parce que les fléaux, ça signifie ça. Mais aussi, il y a une autre. Ça, je ne sais pas si beaucoup de Français les connaissent. Que les fléaux, ça ne veut pas simplement dire la plague, sinon que ça veut dire aussi les bâtons ou les morceaux de bois qui sert pour les pioches, les courbes et tout ça.
Oui, c'est ce que je t'ai dit. Ça sert à battre le blé, c'est-à-dire autrefois. Voilà. On s'en servait pour faire sortir le blé.
Il y a aussi mais ceux-là, ils sont positifs. Moi, j'ai déjà utilisé un fléau quand j'étais jeune.
Moi, je l'ai utilisé en kung-fu, plutôt, dans les arts martiaux. Oui, on utilise les...
Non, c'est d'ailleurs une très belle... C'est presque... Une musique, tu sais, parce qu'on est quatre.
Oui, c'est un peu
sur le plancher de la grange où il y a le seigle. Et puis, on a son fléau, et puis c'est chacun son tour. Ça fait presque une musique, oui, c'est très beau.
Oui, alors il y a beaucoup d'idées qui rejoignent. Je veux dire, les anarchistes peuvent que se retrouver dans vos motivations aussi, mais on pourrait aussi inclure la notion de travail aussi dans les motivations, c'est-à-dire changer aussi un peu les conceptions actuelles du travail, où c'est une obsession chercher du travail. Que vous avez réfléchi aussi à
c'est vraiment des questions où on est vraiment préoccupé par ce genre de, et quand je parlais moi de déconstruire, et de profiter de d'une zone de résistance pour déconstruire certaines choses. C'est, j'entends par là, déconstruire les notions de travail, justement, de mode de vie autour du travail, mais aussi les questions de genre, d'agisme aussi, de plein de choses comme ça, qui pour moi, avoir une zone comme ça de résistance à occuper, c'est l'occasion de vraiment vivre à plusieurs toutes ces déconstructions. Et que,
et moi, tout le monde dit qu'à Notre-Dame-des-Landes, ce qui s'y passe est vraiment marquant, quoi. J'ai encore lu un article où il y a un témoignage de quelqu'un qui dit ce qu'on vit ici est très fort, et il était parti pour quelques semaines et puis finalement il y a encore depuis très longtemps, malgré les conditions climatiques très mauvaises, malgré la boue, malgré la fatigue et tout, les relations humaines sont enfin assez agréables, quoi. Ouais.
Moi, je pense que tout ça, ça a une connotation historique ici en France, que c'est que dans les grosses mobilisations qu'il y a eu, moi, par exemple, moi, je connais la balle à CPE, la LRU, le mouvement des retraites. Le truc, c'est qu'on faisait toujours la même chose. On s'est manifesté pendant des semaines, il y a eu des collectifs de lutte, des convergences de lutte, etc., etc., mais ça finissait toujours la même chose. Il y avait une victoire, il y avait une déroute, mais après, il n'y avait rien. Du coup, en fait, je pense que ces mobilisations, parce qu'il faut le dire, qu'à partir de l'Assad, et surtout de les expulsions de la manifestation de réoccupation, bah, ça crée une espèce de boule de neige qui peut être très positive. Et la différence avec les autres mobilisations, parce que moi, je pense qu'on est dans un mouvement maintenant qui peut être très bien, c'est qu'on ne se pose pas seulement contre, sinon qu'on essaie de construire quelque chose derrière. On essaie de construire, on va être un peu décomplexé, on essaie de construire des territoires qui sont libres de cet fléau qui est le capitalisme et un gouvernement d'État. Mais il faut aussi, c'est important de rester réaliste, que voilà, on est entouré de ce système-là et que voilà, que parfois les relations quand même elles sont complexes. Et que voilà, on essaye d'expérimenter. Moi, j'aime beaucoup ces mots. Mais voilà, je pense que c'est ça qui est nouveau dans ce mouvement-là. C'est qu'il y a une envie, de pas être tout le temps contre, sinon vraiment de construire quelque chose derrière et de mettre en pratique ça qui était dans la théorie, beaucoup de fois, quoi. Et c'est clair que, comme l'a dit la collègue, c'est de construire les termes travail, économie relationnelle, et aussi mettre sur le débat les questions de discrimination, de validisme, agisme, sexisme, racisme, etc. Et les travailler et pas les oublier.
C'est quoi l'agisme? C'est la première fois que j'entends ce mot.
La discrimination,
L'agisme.
C'est une discrimination par l'âge où on considère que une personne plus jeune ou qu'on appelle enfant irresponsable ou des choses comme ça, ou bien où on considère qu'une personne plus âgée ne va pas être capable de faire certaines choses. Et donc voilà, c'est une conception à déconstruire aussi.
Il y a du boulot, alors.
Ouais, il y a beaucoup de boulot.
Il y a beaucoup de boulot. Je sais pas, moi j'avais envie de conseiller un livre. Vous en avez peut-être, vous, à conseiller aussi. Ça s'appelle « C'est quoi cette arnaque ?». C'est un collectif sudave qu'il a écrit. Et donc, ça concerne le projet d'aéroport de Nantes, avec tout un historique. Alors, c'est bien parce qu'il y a plein de niveaux de lecture. Il y a aussi bien technique que économique, que le simple plan individuel des gens qui habitent sur place. Un peu ce que vous disiez, là. Et c'est truculent c'est abominable aussi de voir que le profit
le profit est le moteur.
Le profit est le moteur, voilà. Alors, il y a beaucoup de gens quand même qui s'arrosent au passage. Et ça remonte à très longtemps et ça continue. Et moi, je trouve donc le projet de la ZAD d'Avignon, c'est très bien et il faut qu'il y en ait d'autres. Donc, la manif de samedi à Notre-Dame-des-Landes concernant qui s'appelle Semtazad. Je pense que ça doit se reproduire de multiples façons en France et ailleurs et dans le monde. Voilà, je ne sais pas, en conclusion...
Il faudra faire une petite brochure. Ouais. C'est quoi cette... on ne va pas toujours citer Tarnac, bien que ça soit revenu dans l'actualité, puisqu'il y a la juge de Brive qui a demandé la déclassification de pièces de la police et des renseignements généraux pour constater, enfin en tout cas pour confirmer l'hypothèse que finalement l'affaire de Tarnac était un coup monté bien avant l'histoire des caténaires. Et donc actuellement, est-ce que le gouvernement Hollande va déclassifier ses secrets, parce qu'il semble qu'il y ait eu des écoutes au magasin général de Tarnac, il y a eu des écoutes téléphoniques installées bien avant l'histoire où on les a accusés d'avoir démoli un caténaire. Alors donc, je crois que c'est pour ça qu'ils ont parlé, ils ont fait un titre, c'est quoi cette arnaque ?
Mais
on peut effectivement faire une brochure sur l'action menée dans la zone à défendre d'Avignon.
Voilà, on va conclure, peut-être.
Bon, alors c'est à vous de conclure.
Simplement, on appelle à venir se manifester le 27 avril.
Et à rester
si c'est possible, les lieux suivants, pour nous aider à construire ces lieux-là. Mmh. Et même à rester vivre là-bas, pourquoi pas.
Oui. C'est un très bel endroit d'ailleurs.
Après, je dis,
c'est au bord du Rhône.
Là, malheureusement, il y a les TGV qui la coupent, quoi.
Oui.
Mais bon, on peut toujours aller vers la Durance en 5-10 minutes à pied, quoi.
Oui. Il y a des pêcheurs là aussi.
Et là,
il y a des
pêcheurs.
Et des baigneurs.
Il y a des baigneurs aussi. On se baigne dans la Durance.
Oui.
Il y a des courageux, courageuses, ouais.
Ah oui. Vous en faites partie?
Non, moi pour l'instant non.
Et les 4 jours de conférence, ça va se passer où?
Ça se passera en ceinture verte, en fait. Et ce ne sera pas que des conférences, ce sera aussi des ateliers pratiques, voilà, ouais, des chantiers aussi en ceinture verte. Pour construire, par exemple, un poulailler collectif pour toute la ceinture verte. Il y a aussi des jardins partagés. Mmh. Il y aura aussi des gens qui viennent parler de lutte d'ailleurs, du coup, comme on disait, d'autres collectifs.
Bien, ça.
Je sais qu'il y a une personne de la revue Z qui va venir aussi parler de la Grèce.
Voilà, il y a quelqu'un qui va venir parler des Chiapas aussi.
Ouais, du Chiapas. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait. C'est dur à. Mais le programme complet, est complet ou pas, parce que c'est quelque chose aussi
qui est ouvert.
Qui est ouvert, quoi. C'est-à-dire que si certaines personnes veulent venir parler de choses, c'est fait pour ça, quoi.
Ouais.
Mais le programme provisoire, du coup, il est disponible sur le site internet qu'on disait tout à l'heure, leopart.nobles.
leopart.nobles.org.
D'accord, merci d'être venu jusqu'ici.
Merci à vous de nous avoir invités.
Voilà, c'était l'émission Chronique Hebdo. Une émission un peu particulière, enregistrée sans Gérard, mais on espère que bientôt on arrivera à mieux faire les liaisons entre le studio de campagne pour faire nos campagnes de lutte et que la technique sera plus au rendez-vous.
Voilà, eh bien, bonne journée à tous.